Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Les Français fidèles eux-mêmes n'ont, dit-on, pas le moral cet automne. On les dit inquiets de la supposée cinquième vague du Covid. On les sait soucieux de l'avenir de la planète et de la vie de leurs enfants qui la peupleront. Après la COP26, éteignez votre télévision, a-t-on envie de leur dire, ou plutôt choisissez le bon média, car si ces derniers semblent parfois être devenus une structure de péché, pour reprendre une expression de Jean-Paul II, tant ils entretiennent la peur et le désespoir, le journalisme lui reste un beau métier. C'est ce qu'a rappelé récemment le pape François, remerciant ces derniers pour leur recherche de la vérité, notamment quant aux affaires de pédocriminalité dans l'Église. Votre mission est d'expliquer le monde, de le rendre moins obscur, de faire en sorte que ceux qui y vivent en aient moins peur et regardent les autres avec une conscience aiguisée et une confiance plus grande, a-t-il expliqué. Le grand débat, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Comme deux invités pour cette émission Le Grand Débat, émission d'actualité donc du mois, Anne de la Doucette, présidente des associations familiales catholiques de Haute-Garonne et fondatrice de la formation Passeurs d'Espérance. On en dira peut-être un mot à la fin de l'émission. Bonjour.
Bonjour, Emmanuel.
Parlez bien près du micro. Tanguy-Marie Pouliquin, qui est prêtre et religieux de la communauté des Béatitudes et professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour à tous.
Merci d'être fidèle à ce rendez-vous. Donc, on alterne les intervenants. Aujourd'hui, c'est vous deux. On s'en réjouit. Premier sujet. Donc, on s'est dit qu'on allait choisir trois sujets. Je les présente puisque je ne l'ai pas fait en introduction pour une fois. On va parler du pass sanitaire et de la vaccination et des questions que ça soulève pour vous. On essaye de temps en temps d'aborder ce sujet et pas forcément comme tout le monde, on s'y autorise. On parlera de la COP26, même si on en a déjà parlé à cette antenne, on a même consacré une émission. Je me suis dit que c'était intéressant d'avoir vos retours. Et puis enfin, on finira par un plan fin de vie, le plan national pour les soins palliatifs. Ça n'a pas fait la une de l'actualité, mais c'est dans les tuyaux. On y reviendra. Alors, on serait dans la cinquième vague du Covid. Même sur notre antenne, le matin, on a envie de prendre un anxiolytique tellement il paraît que la vague est fulgurante. Il y a eu un conseil de défense qui était donc cette semaine, le 24 novembre. À la sortie du conseil de défense, donc, le porte-parole du gouvernement a laissé entendre que de nouvelles décisions allaient être prises. On peut rappeler que le 9 novembre dernier, Emmanuel Macron, dans une allocution, avait aussi annoncé donc un rappel vaccinal à être obligatoire pour les plus de 65 ans pour le pass sanitaire. Passe sanitaire qui est en place donc depuis mai dernier et qui normalement court jusqu'à juillet 2022. Alors beaucoup de choses à dire autour de ça, je donnerai juste un ou deux éléments. Il resterait donc 6 millions de non-vaccinés en France et puis des questions autour de... Allez, je commencerai par ça. On nous présente toujours ce fameux taux d'incidence. Le taux d'incidence, c'est donc le nombre de personnes qui sur une période ont contracté cette maladie, mais qui ne sont pas toujours malades, il faut le préciser. Alors Tanguy-Marie Pouliquin, est-ce que ça vous énerve un peu ? J'imagine que vous n'êtes pas familier de BFM TV, vous ne devez pas voir ça dans votre cellule, mais cette ambiance un peu anxiogène.
Bah, elle est anxiogène si on reste devant la télé, hein. Si on va marcher, qu'on éteint la télé, qu'on respire, qu'on réfléchit à partir de données scientifiques, on met en perspective nos comportements. Il faut avoir confiance dans le niveau scientifique de la vérité, hein. La vérité, elle n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi scientifique, et comme nous y invite le pape français, de faire confiance à ce niveau-là, et à ceux qui utilisent ces données pour prendre des décisions politiques, on pourrait dire, proportionnées. Hein.
Alors, avant de nous dire peut-être ce que vous pensez peut-être du pass sanitaire ou de la vaccination, est-ce que, à votre avis, c'est, on va dire, scientifiquement raisonnable que d'être aussi anxieux d'une cinquième vague ?
Je dirais, on va regarder les chiffres et on voit bien que l'Allemagne qui a un mois d'avance sur nous a déjà pris les décisions. Il faut éviter l'accélération, c'est-à-dire c'est une courbe de Gauss. Hein. Non, pas de Gauss, il y a une croissance géométrique qui s'opère. Donc il vaut mieux couper sous l'aile l'expansion du virus avant que... Voilà. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est le regard. Pourquoi il y a des gens qui sont pas vaccinés, quelles sont dans leur tête les, leur peur. Et là, il y a des vraies raisons et on peut discuter la question de l'instauration d'une société de contrôle, d'une société subordonnée à un diktat politique permanence. Est-ce qu'il y a un agenda caché derrière, avec toutes les réflexions de Klaus Schwab, de Davos, etc. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a un grid reset et autres, une grande réinitialisation de la société, un agenda caché, voilà. Sinon, s'il n'y a pas cet agenda caché, qu'on défend nos libertés publiques et que leur limitation est proportionnée, je pense qu'il faut faire quand même confiance à nos institutions. Et je dirais aux garants des libertés publiques, qui est le Conseil d'État, qui dit que pour l'instant, il y a un rapport proportionné. On va pouvoir discuter. Hein?
Allez, on va discuter, parce que vous avez vu d'autres...
Je hoche la tête dans l'autre sens.
Je pensais pas que vous iriez jusqu'au grand reset, mais c'est très bien, on en parlera, parce que c'est dans la tête de pas mal d'auditeurs. Une première réaction. Est-ce que vous avez l'impression que c'est disproportionné, exagéré?
Alors moi, je vais vous dire, moi, je ne regarde pas la télévision et je suis vaccinée. Mais je trouve ça disproportionné. J'ai un gros, gros problème avec ce vocabulaire de guerre. Qu'on soit en état d'urgence jusqu'au mois de juillet, qu'il y ait des conseils de défense, des données scientifiques, qu'on fasse peur, que les Allemands disent le slogan de l'Allemagne, c'est vacciner, mort ou vivant. Je trouve que c'est très mauvais pour la psychologie des gens, la cohésion de la société. Et je trouve ça très inquiétant. Cette approche du Covid est bien sûr basée sur ces données de chiffres scientifiques, a réduit la personne à un corps biologique. Et je trouve qu'on a extrait, on a enlevé tout ce qui faisait l'homme, c'est-à-dire son âme, son esprit, l'humanité. Et que c'est un tournant qui me paraît dangereux, dans la mesure où en même temps, on a enlevé une partie des libertés individuelles. La personne qui est vaccinée, qui n'est pas vaccinée, je la respecte, mais tout de suite, elle est mise au banc. Dans une réunion de famille, vous avez un vacciné, il se fait quasiment parfois injurier. Il n'y a plus de possibilité de débat, de possibilité de fraternité, alors que cette épidémie devrait nous rassembler. Je pense que la loi d'un gouvernement, c'est de rassembler la population dans un état d'urgence, dans un état de guerre. On rassemble la population. Là, tout est fait pour nous diviser dans la façon dont les mesures sont prises. Je ne dis pas que c'est facile. Hein.
Pas d'accord.
Hein? Alors, juste avant de vous donner la parole, j'apporte un autre élément peut-être pour vous relancer. Si on s'arrête juste sur le pass sanitaire, je vais faire écho à cette tribune dont un certain nombre d'auditeurs ont probablement entendu parler. Il est certain qu'un certain nombre d'auditeurs y ont été sensibles. C'est une tribune de François-Xavier Bellamy qui a été co-signée par Loïc Hervé, sénateur de la Haute-Savoie et vice-président du parti Les Centristes. C'était en juillet dernier, après l'annonce donc du pass sanitaire, et tous deux disent « C'est une rupture historique pour notre modèle de société. Je cite juste quelques passages. Pour la première fois dans notre histoire, il faudra présenter un document de santé pour effectuer les actes les plus simples du quotidien. L'accès à l'espace public sera différencié selon vos données de santé. Comment une telle révolution peut-elle s'opérer avec une justification si faible, sans débat approfondi et en caricaturant tous ceux qui osent s'en inquiéter ? Et au risque d'être un peu long, je citerai un autre passage. Ce serait surtout... il s'agit de basculer dans un monde nouveau où l'État contraindra chaque citoyen à contrôler son prochain pour savoir s'il faut l'exclure. Alors, si vous n'êtes pas complètement à l'aise avec ça, Tanguy-Marie Pouliquen, qu'est-ce que vous répondriez à François-Xavier Bellamy ?
Alors, la question de la société de contrôle, il y a tout un courant complotiste qui réfléchit sur un agenda caché qui viendrait notamment du patron de Davos, Klaus Schwab, qui a écrit le Great Reset, et puis qui a son dernier bouquin, c'est la quatrième révolution industrielle. Et dans cet agenda caché, il est dit que son leitmotiv, c'est le bonheur, c'est de faire ce que l'on veut et de vouloir ce que l'on fait. Donc c'est d'individualiser au maximum les comportements, de liquidifier la société, donc d'enlever toutes les racines, et de permettre par la divulgation du numérique aux gens de faire ce qu'on veut. Et le rôle de l'État, c'est de contrôler et de permettre à cet individualisme matériel, biologique, social de s'exprimer librement, et ça, on éliminerait la démocratie, et puis tout, voilà. Ça, évidemment, cet agenda-là...
Éliminer la démocratie, c'est dans son bouquin aussi.
C'est dans le bouquin.
La grande réinitialisation.
Voilà. Donc, c'est un agenda libéraliste qui n'est pas sans collusion historique, même avec les Chinois, du point de vue libéral, du point de vue de la production des biens, de la réduction de la personne à simplement un être matériel. Donc ça, on pourrait dire, et derrière, c'est une société de contrôle. Et pour assurer cet agenda, on va diffuser une société de contrôle. Alors, on n'y est pas en Chine, dans la plus grande ville de Chine, vous avez une caméra pour 6. En France, la ville où on a le plus de caméras, c'est Nice, il y en a une pour 130. Il y a une volonté de contrôle par le numérique et de prendre la main. Et le pass sanitaire, ben voilà, ça peut être le moyen d'entrer dans ce contrôle.
D'accord, mais vous définissez ça comme une réflexion complotiste.
Ben, complotiste,
François-Xavier Bellamy a pas a priori le profil du complotiste.
Non.
Même si on l'imagine d'abord hirsute et hystérique, ce qu'il est en général pas trop.
Non, mais derrière, c'est l'idée de la société de contrôle. Et moi, je comprends qu'on soit pas d'accord avec la société de contrôle. Je comprends que s'il passe à la Terre, ça nous empêche d'être libres, de nous déplacer, etc. Il faut quand même distinguer la vaccination généralisée et le pass sanitaire. Je pense que c'est quand même...
C'est-à-dire ? Parce que François-Xavier Mie dit pas autre chose dans sa tribune, et on l'a entendu souvent, hein, mais il eût été plus courageux de demander une vaccination obligatoire et de ne pas rompre, justement, entre guillemets, avec une liberté publique dans ces cas-là.
Il y a quelque chose qui peut être tout à fait aller dans ce sens-là, d'obliger la vaccination, mais bon, jusqu'où on peut obliger la vaccination. Et donc, pour favoriser cette pression de la vaccination, on a instauré le pass. Ça a marché d'un point de vue quantitatif cet été, c'est-à-dire les Français, parce que en gros ils pouvaient pas partir en vacances parce qu'on obligeait le pass sanitaire, mais ils se sont massivement cet été en Allemagne, l'Allemagne elle cet été a enlevé le pass sanitaire, elle a un mois et demi d'avance sur nous sur l'expansion, donc le pass sanitaire a aussi un effet de ralentissement de la profusion de la maladie. Voilà.
Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est comme ça, c'est bien parce qu'on peut débattre. Je pense que d'abord, il y a beaucoup de gens qui se sont fait vacciner ou ont eu le pass sanitaire parce qu'ils devaient travailler. Moi, je dois me rendre souvent à l'étranger pour ce que je dois faire. Et j'avais pas le choix. Donc, c'est vrai qu'un vaccin en phase 3 qui n'a pas été totalement homologué, je suis pas enthousiasmée. Quand mes enfants de 20 ans ont dû se faire vaccinés alors que eux ils avaient beaucoup moins de risques d'être malades que des gens de 60 ans, j'étais pas enthousiasmée. Ils sont rentrés dans le système tous, mais j'étais pas enthousiasmée.
On a reçu des soignants ici à cette antenne qui ont perdu leur travail.
Oui, puis quelques-uns qui depuis sont chopés le Covid, donc depuis peuvent retravailler parce que maintenant ils sont immunisés, ce qui est bien. Mais je suis pas d'accord avec vous et je suis pas du tout sûre que le pass sanitaire soit un frein. Parce que, en fait, une fois que vous avez votre passe, vous dites, je prends moins de risques. J'y vais, je ne prends pas de risques. En fait, on serre la main, on s'embrasse, les gens sont beaucoup, beaucoup plus libres. Et parfois, ça n'avait pas de sens. J'étais sur la côte basse ce week-end. On a été aux Halles. Les gens étaient les uns contre les autres. On ne nous a pas demandé de masque, pas de passe sanitaire. Puis après, on a voulu prendre un café sous la pluie sur une terrasse où on était seul à 8. On nous a demandé notre passe sanitaire. Donc, on se dit, c'est un peu l'absurdité. On demande dans le TGV, pas dans le TER. Ce qui me
Il faut quand même rappeler que le fait d'être vacciné n'empêche pas de transmettre la maladie. Hein. Sur le site Infovac du gouvernement, à F comme fait d'être vacciné, il nous parle d'une étude anglaise qui, en gros, reprend ce qu'on peut lire dans la presse, c'est-à-dire qu'on risquerait de le transmettre, on va dire, à 30 ou 40% moins que quand on est pas vacciné. Voilà, donc c'est pas une assurance touriste.
J'étais souvent au Portugal et en Angleterre où on nous demande pas de passe. On est strict pour les conditions d'entrée, on vous demande passe-passe et j'ai pas l'impression que ça se développe tant que ça dans ces deux pays-là. Alors peut-être qu'il y en a une qui est une île et l'autre qui est plus en retard, point de vue ça. Il y a une autre chose que je voulais...
Quid de l'objection de conscience ? Parce que quand on lit la note de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui a été publiée donc par le Saint-Siège et qui porte d'abord normalement sur le fait qu'un certain nombre de vaccins ont utilisé donc des cellules souches embryonnaires, j'ai découvert, à force de relire cette note, que le pape François ouvrait quand même la porte à une objection de conscience, laissant entendre qu'on peut refuser d'être vacciné vacciner pour ce motif que je viens d'être cité ou pour d'autres. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet, Tanguay-Marie Pouliquen, vous alors, êtes sensible à la question de la conscience.
La conscience et puis de la bioéthique. Dans cette note donc de la doctrine de la foi, c'est l'idée qu'il n'y a pas de coopération directe personnelle si on utilise un vaccin qui a des lignées cellulaires d'origine embryonnaire. On n'a pas de coopération directe. Il y a quand même une nuance disant que si on a le choix de faire autre chose, il faut faire autre chose. Voilà. Donc si on n'a pas le choix en raison d'un choix de disponibilité de vaccins, etc., ou un choix financier, mais en France, ce n'est pas un vrai problème, c'est qu'on ne va pas coopérer, on ne va pas coopérer directement. Et donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on utilise des vaccins, alors ce n'est pas que pour le vaccin Covid, c'est pour tous les vaccins, parce qu'à travers ces lignées cellulaires, on a standardisé les procédures de mise en place, de fabrication des vaccins, mais pratiquement de tous les vaccins. C'est le cas. Sauf bien sûr les vaccins ARN qui sont comme le Pfizer. C'est qu'il n'y a pas de coopération directe. Donc,
et malgré tout, il ouvre la porte à une objection de conscience. Parce qu'on peut quand même dire que quand on est une personne, on va dire, de plus de 80 ans qui a une comorbidité, bah dans ces cas-là, cette question possible d'objection de conscience, on va dire, on lit la note et puis on la prend pour soi. Mais quand on est, quand on a une létalité, comme par exemple quelqu'un comme moi, de moins de 50 ans, c'est 0,4% de létalité, et qu'en plus, le fait d'être vacciné n'empêche pas de le transmettre, est-ce qu'on ne peut pas être dans la case objection de conscience, entre guillemets ?
Bah, l'objection de conscience.
Et là, on n'est pas raccord avec ce que demande le gouvernement.
L'objection de conscience, elle est d'abord un acte personnel. Elle est un acte qui ne s'impose pas, on pourrait dire, de l'extérieur, qui s'impose par le cheminement de la conscience de la personne qui veut défendre son intégrité, et dans le sens de ce que disait Jean-Paul II à l'époque, qu'il n'est pas possible d'avoir deux vies parallèles. Mmh. Voilà. Et en ayant deux vies parallèles, bah, on fracture un petit peu, on fracture sa personne, et dans ce cas-là, on ne construit pas un humanisme intégral, intégré, concret. Voilà. Donc le but de l'objection de conscience, c'est de défendre l'intégrité et l'unité de la personne. Ici, il y a un élément en plus qui est mis en perspective, c'est la notion du bien commun. C'est-à-dire que je suis solidaire de ma décision des autres. Et donc, cette importance de se faire vacciner, et le pape défend la vérité de la science en termes de vaccins. Alors, on peut discuter de cette vérité de science en termes de vaccins. Ouais, d'accord. Hein. Je suis responsable de l'impact de mon geste sur les autres. Et là, il y a comme un glissement intéressant qui fait qu'on ne comprend plus la personne simplement comme une conscience individuelle, mais comme une conscience qui a une responsabilité collective.
Vous comprenez que certains objectent conscience, justement ? Les 6 millions de vaccinés, c'est juste des retardataires
non.
ou des personnes âgées
qui ont peur. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, surtout qu'ils sont mis au banc de la société. Et s'ils le font, c'est par des... Et j'en connais de 15 ans à 80 ans, qui ne veulent pas. Voilà, c'est leur choix, et je trouve qu'on peut l'acheter. Dans la mesure où je suis toujours un peu choquée de dire que c'est peut-être pour le bien commun, c'est un argument qu'on peut retenir. Encore une fois, je suis vaccinée, hein, donc je... Et voilà. Quand on se vaccine, on se protège pas l'autre, on se protège soi. C'est-à-dire qu'on le transmet autant, on le transmet toujours et on l'a moins fort.
On le transmet moins, mais on l'a moins fort.
Un petit peu moins.
Donc la personne qui veut être protégée, elle se fait vacciner. Celle qui veut prendre un risque, elle peut prendre un risque. Mais quand on était vacciné, on ne transmettait plus et on ne tombait plus malade, ça serait... À ce moment-là, je rejoins votre point. Pour le bien commun, il faudrait se faire vacciner. Mmh. Mais dans la mesure où on ne sait pas encore toutes les conséquences de ce vaccin, parce qu'elle est en phase 3, je peux comprendre que des gens ne veuillent pas vacciner. Et encore plus aujourd'hui, où on vous dit, de toute façon, vous pouvez encore l'attraper et vous pouvez encore le passer. Et finalement, dans ces réunions, on se retrouve, on est obligé d'avoir un pass. Les gens ne sont pas vaccinés. Ils se font faire un test PCR le matin et ils ont bien plus de chances que les autres de ne pas transmettre la maladie parce qu'eux, on est sûr qu'ils ne l'ont pas.
Et puis, ils sont parfois plus attentifs.
Nous, on peut l'avoir. Donc, je crois que... Je suis pour aussi pour qu'on mette des politiques de lutte contre cette maladie. Hein. C'est pas pour ça que... Mais je crois qu'on met les choses à leur place et pas...
Allez, je vous propose, on va faire une première pause musicale et puis on va passer à un autre sujet. Si ça vous chatouille trop, on pourra y revenir à la fin de l'émission. On va parler bientôt de la COP26.
Emmanuel Pella.
Le grand débat, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec comme invité Anne de la Doucette, présidente des associations familiales catholiques AFC de Haute-Garonne, entre autres, et Tanguy-Marie Pouliquen, qui est prêtre et religieux de la communauté des Béatitudes et professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse. Alors, la COP26, on a fait une émission spéciale, c'était jeudi dernier, pour essayer de parler des conclusions de cette COP qui en a déprimé beaucoup. En tout cas, c'est l'impression qu'on pouvait avoir donc, en lisant la presse et peut-être même en discutant autour de soi. On a vu donc les larmes de son président, Alok Sharman, qui était donc ancien secrétaire d'État à l'énergie et stratégie industrielle anglais. Un certain nombre de sujets ont été mis sur la table, entre le blablabla de Greta Thunberg et l'accord de Paris sauvé, c'est vrai qu'on se disait qu'il y avait peut-être un entre-deux. On a noté la semaine dernière un certain nombre de sujets. Je peux citer le CCFD Terre Solidaire qui avait un envoyé là-bas et qui a donné quelques conclusions. Réduction globale des émissions, le grand échec. Sortie des énergies fossiles, un début très timide. Les deux pays du Sud, l'égoïsme du Nord perdure. Et puis, il y avait quelques notes sur méthane, déforestation et autres, puisqu'il y a des accords, on va dire, qui ont été sur ces sujets qui ont été pris, même si c'était des alliances qui n'étaient pas des unanimités. Alors, on va commencer avec vous, Anne de la Doucette. C'était pas forcément le premier sujet dont vous aviez envie de parler, n'est-ce pas? Mais comme j'essaye d'être insistant avec vous, finalement, vous vous êtes plongé dedans.
Entre deux titus.
Alors, si vous deviez voir le verre à moitié plein pour commencer, quel serait-il? Et en a-t-il un pour vous?
Eh bien, pas trop, parce que je trouve que ça n'a pas beaucoup avancé, si ce n'est qu'on se rend compte que ces COP n'aboutissent pas à ce qu'on voudrait. Peut-être parce qu'on réduit la création à la nature aussi, et qu'on n'y apporte que des solutions techniques et pas des solutions peut-être d'ensemble interpays. On dira tel pays produit ceci, tel pays produit cela. Il faut que tel pays baisse sa production de CO2. Mais on ne se rend pas compte peut-être des différents pays. Un pays en plein développement en Afrique qui a besoin, les gens crèvent de faim, les gens ont besoin de développer ce pays, ils vont prendre les énergies qu'ils vont trouver et ils ne seront pas là à se dire je vais mettre 3 éoliennes sur mon champ de blé ou pour pouvoir produire.
Oui. Hein? Des ignames.
Des voilà. Ignames pour pouvoir. Je crois qu'il n'y a pas pris de compte. Et donc on apporte que je trouve que des solutions techniques, on n'apprend pas le truc dans sa façon globale.
Pourtant, il y a 196 pays, il faut prendre des décisions, donc on va dire presque à l'unanimité, si j'ai bien compris. Donc normalement, justement, c'est un lieu par excellence de dialogue, y compris Nord-Sud.
Oui, mais alors, les Américains se paraissent tout à fait, blanchis, parce qu'ils produisent moins de CO2, mais ils ont le gaz de schisme. Donc, si vous voulez, je crois qu'on... pas un dialogue de sourds, mais c'est devenu presque idéologique, technique, et on n'est pas... c'est, comme je vous disais quand je vous écrivais, c'est un peu un éléphant qui accouche d'une souris. C'est qu'on on fait de grandes pronostics, on fait de grandes déclarations, et puis on s'aperçoit que ça donne pas grand-chose. Hein. Tellement il y en a 2 sur 26 qui ont produit quelque chose. Il y a la COP3 qui approuva le programme de Kyoto. Et puis il y a la COP21 en 2015, où M. Fabius aussi pleurait. Donc ce sont peut-être les deux qui ont peut-être un tout petit peu avancé, mais qui n'ont pas permis finalement de grandes évolutions au niveau des réductions du CO2. Et puis je crois qu'il y a quand même, comme je vous le dis, tous ces pays d'Asie, tous ces pays d'Afrique qui sont en voie de développement, on ne va pas pouvoir les empêcher de produire du CO2, ça va être pour leur développement, ou sinon il faut vraiment que nous ayons la générosité de les aider à faire autrement. Et là, je ne crois pas que ce soit parti pour. Je ne sais pas ce qu'en pense le Père Marie.
Alors, vous lui donner la parole peut-être au sujet de Nord-Sud. On peut rappeler un élément, c'est qu'il y avait deux sujets qui sont ressortis de cette COP. C'est le concept donc, de perte-préjudice. Ceux du Sud qui sont parfois plus impactés par la voracité du Nord, pour faire court, il s'agit de les dédommager financièrement et puis de les aider justement à s'adapter parfois à des situations bien difficiles. Et puis, il y a un autre fonds qui normalement doit être abondé à hauteur de 100 milliards par an, si j'ai bien compris, qui est d'aider les pays du Sud dans leur transition écologique. Tanguy-Marie Pouliquen, est-ce que vous êtes sorti déprimé aux lectures de la conclusion de la COP26?
Moi, je pense qu'on n'y est pas du tout. Hein. On n'y est vraiment pas du tout. Mais on dialogue, c'est-à-dire les grands changements, les nouveaux paradigmes, les nouveaux équilibres culturels à venir, ils naissent par des minorités actives qui prennent la parole, par le dialogue et par la prise conscience de problèmes climatiques qui vont arriver à un moment en chaîne. Je dirais, en gros, il faudrait un jour qu'on ait une grosse patate sur la figure. Mmh. Voilà, on changera que s'il y a une grosse patate sur la figure, s'il y a un gros problème qui nous arrive. Mais parce qu'on aura débattu avant et on sera prêt à prendre une décision. Et ça peut nous faire basculer dans un nouveau paradigme qui sera le paradigme, je pense, de la sobriété heureuse, pour prendre le concept régulateur proposé par le pape François, de retrouver une satisfaction au-delà d'une consommation. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le libéralisme qui va de l'avant. On en a parlé, il y a quelques minutes avec certains qui veulent vraiment liquidifier la société et faire que chaque individu soit vraiment un individu libre, qu'il fasse ce qu'il veut quand il veut. C'est pas mal de défendre la liberté individuelle, mais on est là pour promouvoir le bien commun. Et c'est bien le bien commun, et la terre est un bien commun. Oui. La doctrine sociale de l'Église, l'enseignement social de l'Église, c'est avant tout une invitation à un acte social, c'est-à-dire pas simplement à penser, mais à agir en ne séparant jamais, la création du Créateur et le règne de Dieu de notre co-création dans la création, c'est-à-dire de notre engagement dans la société.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même avec, on va dire, ces échecs apparents, en tout cas des COP, d'engendrer aussi, de favoriser ce désespoir? Quand je parlais des médias en introduction qui parfois entretiennent une structure de désespoir, on peut se dire aussi, en forçant un tout petit peu le trait, que ces COP, c'est aussi ce qu'elles engendrent. Récemment, je prendrai un exemple là qui n'est pas tiré de l'information, mais d'un dialogue avec une invitée qui faisait partie de Youth for Climate. Donc c'est ce mouvement, on va dire, c'est la version française et belge du mouvement de Greta Thunberg, et qui disait qu'en fait, en général, c'est des lycéens qui s'engagent. Et derrière, en fait, ils sont tellement déprimés par la situation qu'ils basculent pour la plupart dans Extinction Rébellion, c'est-à-dire on choisit la désobéissance civile. Donc on sent aussi dans une jeunesse, la dépression verte, ça existe aussi chez les jeunes, une inquiétude profonde. Christine Lagarde disait que bientôt on allait peut-être entrer dans un âge de la colère. Est-ce que ces échecs en chaîne, ça ne peut pas avoir cet effet dévastateur?
Oui, mais bon, c'est la jeunesse qui prépare l'avenir. Hein. La jeunesse aussi, elle passe. On est en face quand même de butoir formidable. Hein. Si on garde ce qu'on a décidé, on est à la fin du siècle à plus 2,7 degrés en plus. C'est énorme. Mais on pourrait dire en 2100, d'accord? Mais en 2200, ça sera 4 degrés. Bon, est-ce qu'à un moment, on va basculer en rétro-pédalant? Donc à un moment, il faudra rétro-pédaler, parce que la vie est invivable, et les jeunes générations qui se projettent dans l'avenir, c'est sûr que ça aura une incidence sur la démographie. La jeunesse d'aujourd'hui, en termes de projection démographique dans les pays surtout occidentaux, elle est à la baisse. Voilà. Donc il y a une projection de non-confiance dans l'avenir. Est-ce que je vais faire naître des bébés dans une société qui sera invivable pour mes enfants? Je dois être responsable. Alors il ne faut pas non plus, vous voyez, trop matraquer d'un point de vue médiatique ces idées, parce que ça, on finit par les intérioriser trop vite. Voilà.
Anne de la Doucette.
Moi, je pense qu'il y a une dimension un peu trop parfois idéologique, l'histoire des éoliennes qu'on a installées en France absolument partout. Il y avait les écologistes défendaient les éoliennes pour... C'était quand même une nuisance sonore, c'était une nuisance visuelle. Donc on a c'était toujours une réponse technique. C'est, je vous dis, on est parti de la création, nos dieux nous parlent de la création. Là, on s'est limité à la nature et avec des réponses techniques.
En même temps, il faut trouver, si j'ai bien compris, quand même une réponse technique à cette question qui est l'émission de CO2.
Oui, mais là, on a dépensé 1 000 milliards de dollars d'euros depuis 2000.
Sur
Sur les énergies alternatives. Oui. Là,
en France.
Oui. Avec 2,9.
Pour produire juste 2,9% du bilan énergétique.
Voilà.
Donc c'est
bah, dites-nous, le chiffre, c'est quoi? C'est
1 000 milliards. Pour un résultat de 2,9.
Entre quand et quand?
Depuis 2000. En 20 ans. En Europe.
Oui.
En Europe. Voilà.
Et 1 avec 1 milliard, on produit juste 2,9%.
Voilà.
Et on est quand même en train de rétro-pédaler vers l'énergie nucléaire.
Nucléaire, donc ça,
parce
il
que
faut,
l'Allemagne, avec son charbon, n'est pas un bel exemple. Donc, on s'est engagé à faire comme les Allemands parce qu'on nous dit ah, le nucléaire, c'est ceci, le nucléaire, c'est cela. Mais on s'est aperçu quand même que le nucléaire était moins polluant que de retourner au charbon, parce que les éoliennes, c'est bien, mais ça marche quand il y a du vent.
Et puis ça produit pas assez.
Et puis c'est polluant après.
Et après, il faut les démanteler au bout de 30 ans à la charge du propriétaire, et ça coûte plus cher que l'indemnité qu'il a reçue pour permettre son installation. Donc c'est de la colère potentielle. Moi, dans la commune de mes parents, ils veulent installer des éoliennes géantes. Donc moi, j'étais invité à l'association anti-éolienne pour dire mon point de vue. C'est incroyable les coûts du démantèlement d'une éolienne au bout de 30 ans d'usage. Qui va payer ça?
Et récemment, des gens qui s'est installé, on a mis une éolienne construite quelques années après à côté de chez eux. Ils ont gagné leur procès contre les éoliennes. Ils ont eu un dédommagement pour la première fois par les tribunaux, parce qu'on a reconnu les nuisances sonores, visuelles dont ils étaient victimes, et la dévalorisation de leur propriété. C'était la première fois que ça se fait. Hein.
Alors le CCFD Terre Solidaire, donc sa correspondante pour la COP26, donc Myrto Tilianaki, dans la fin de son compte-rendu, disait « La société civile va devoir continuer à s'imposer ». Bon, c'est pas très surprenant de vous proposer ça comme issue, quelque part, selon vous, est-ce la seule solution, d'une certaine manière, Anne de la Doucette?
Quoi?
La mobilisation de la société civile, de tout à chacun.
Tout dépend comment elle se modifie. Tout dépend comment elle se mobilise. C'est peut-être parce qu'en chacun, quand on se met à la permaculture, quand les actes que chacun peut poser, certains se mettent à la permaculture, certains en faisant attention à la façon dont ils consomment. Mais les jeunes, ils sont très bien, mais couper leur Internet, on verra la tête qu'ils feront, quoi. Je veux dire, il faut vraiment quand même une cohérence dans le comportement. C'est très bien d'aller définir moi, l'écologie, machin, mais tu vas plus chez McDo, t'as plus d'Internet, tu prends plus la vie. Il y a déjà beaucoup qui le font, hein. Mais il y a un vrai souci chez les jeunes. Mais il faut aussi une cohérence et une honnêteté intellectuelle.
Cet été, moi, j'ai été...
Voilà, j'allais vous lancer là-dessus. Allez-y.
Un éco-hameau.
La bénisson Dieu.
La bénisson Dieu. Donc
rappelez en deux mots ce que c'est pour ceux qui ne savent pas.
La bénisson
Dieu, c'est un lieu pilote.
C'est un lieu pilote de famille, de belle famille, avec plusieurs enfants, des beaux couples, qui ont un projet à la fois culturel autour d'une abbaye en désuétude, de réinvestir un projet culturel. Chaque famille vit dans le hameau. Les familles sont autonomes, mais elles se rencontrent chaque semaine pour des débats culturels. Le samedi après-midi, il y a un travail communautaire, collectif, donc on travaille pour l'autre, voilà. Et puis chaque mois, on travaille avec la collectivité locale pour apporter notre réflexion. Et puis
c'est des décroissants, ils essaient de vivre sobrement.
Voilà, c'est en gros, ils sont plutôt décroissance. Ils sont plutôt anti-vaccins aussi, hein. Ils sont plutôt...
Ils essayent de ralentir.
Voilà, ils essayent plutôt de ralentir, de réfléchir, de contester ce qui peut être contesté, mais de penser, parce que là-dedans, il y a quand même des grands intellectuels, hein, qui donc veulent réfléchir sur l'idée de sobriété heureuse dont on a parlé, et de dire que la véritable satisfaction, leur véritable satisfaction, c'est pas la consommation. C'est pas d'être branché devant un écran, c'est la joie d'être ensemble dans une joie familiale, éducative, avec des enfants, dans la prière, parce que tous les matins ils se retrouvent à l'abbaye pour faire les laudes ensemble, pour ceux qui peuvent, donc c'est assez libre, et puis et puis voilà, d'avoir un projet qui peut enrichir la société à travers les animations, l'été culturel autour de voilà, d'un esprit.
Donc c'est possible quelque part.
Oui, et c'est possible.
On peut vivre.
C'est réalisable.
Avec un bilan carbone correct et
voilà,
en même temps.
Voilà. Et puis ils ont des productions, ils font des productions artisanales, des productions maraîchères, des productions.
Ça peut être des silos, mais ça peut pas être toute la société.
Ils
n'ont
pas encore peut-être trouvé encore leur production commune.
Et pourquoi ça peut pas être toute la société? Peut-être pour finir, Anne de la Doucette, parce que ces gens-là, certes, il y a beaucoup de profs et ils ont quand même des voitures, donc il faut bien que quelqu'un fasse leur voiture. Mais...
Absolument, il faut que quelqu'un construise les voitures, il faut que quelqu'un fasse marcher l'eau, l'électricité. Alors, que ce soit des îlots, moi je pense que c'est plutôt des. J'en connais d'autres qui sont partis aussi dans le Loiret, reprendre des gens qui avaient des gros postes, qui ont tout abandonné pour élever des moutons. Et je trouve ça un peu comme en 68, hein, il y en a qui sont partis dans le Larzac, et c'est très bien. Ce sont des lanceurs d'alerte, ça prouve qu'on peut faire autre chose. Et d'abord, qui montrent, parce que je crois que le plus gros problème aujourd'hui de la société, c'est le manque de spiritualité. C'est que si les gens consomment et sont là, à tes visions, les marmottes, c'est qu'il y a un vide intérieur effrayant. Et que l'accélération du temps fait que les gens n'ont plus le temps de réfléchir et se laissent aller rue d'Alsace le samedi après-midi.
Tanguy Marie, pour finir, c'est lanceur d'alerte ou monde d'après?
Alors c'est lanceur d'alerte, mais il faut créer d'abord des alternatives crédibles et durables. Vous voyez ce que vient de lancer là depuis.
Vous voulez dire industriel en l'occurrence là ou...
Non, durable. D'abord, on a les circuits courts. Si ça marche, tant mieux. Hein. En contrepoint, ces dernières semaines, Facebook a changé de nom. Il s'appelle Meta. Et il va lancer des dizaines de milliards pour les métavers. C'est-à-dire que chacun d'entre nous aurons notre avatar dans un monde parallèle virtuel. C'est-à-dire avec qui voulons-nous vivre? Est-ce que nous voulons satisfaire notre quête d'infini dans un monde parallèle virtuel avec des écrans et des avatars avec qui nous voulons parler? Ou revenons au lieu de nos racines, qui sont des racines aussi naturelles, environnementales, mais aussi spirituelles. Et là, la joie, elle est réelle et on aura une vie réelle et non pas virtuelle.
Allez, on fait une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour parler d'un troisième sujet qui est passé en dessous, on va dire, du scan souvent de l'actualité. C'est donc un cinquième plan national pour les soins palliatifs qui est dans les tuyaux. Ça va être l'occasion aussi de parler de la fin de vie puisque ça semble aussi être dans les tuyaux du programme présidentiel du peut-être candidat Emmanuel Macron que de proposer la légalisation de l'euthanasie. Le grand débat, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce vendredi matin avec Anne de la Doucette, présidente des associations familiales catholiques AFC de Haute-Garonne et Tanguy Marie Pouliquin, qui est donc professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse. Troisième sujet, c'est donc ce cinquième plan national pour les soins palliatifs présenté par le gouvernement qui est prévu donc pour 2021-2024. D'après ce que j'en ai compris, le but est de faire rattraper à la France son retard et puis une certaine, on va dire, inégalité entre départements, retard eu égard à ses engagements passés et pointé par un rapport récent que je vais retrouver. Ce plan donc prévoit 171 millions d'euros dédiés à l'accès aux soins palliatifs et à l'accompagnement de la fin de vie. Et ce, dès 2021, même si, Anne, vous me faisiez remarquer, en 2021, c'est simplement 5 millions. Alors peut-être que ça, c'est un départ qui tousse. En tout cas, le gouvernement semble se préoccuper donc de l'extension des soins palliatifs. On peut mettre ça en regard de ce que l'on dit être dans le programme potentiel d'Emmanuel Macron pour la présidentielle, qui serait donc de soumettre aux Français la question de la légalisation de l'euthanasie, puisqu'il y a des députés qui régulièrement de LREM qui poussent pour sa légalisation d'ores et déjà. Le gouvernement freine, mais c'est semble-t-il d'abord une question de calendrier. Alors là, il y a un paradoxe apparent sur lequel certainement vous allez hélas vous régaler. Tanguy-Marie Pouliquen, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ça m'inspire que d'abord il faut prendre les choses positivement, que l'intergénérationnalité, cette interdépendance, elle est positive. Voilà. Elle est positive que vivre avec des personnes de grand âge, ensemble, nous, dans notre communauté, on en a 8 en grand âge, 8 aussi avec des handicaps, donc des gens de fragilité profonde. Quand c'est vécu dans une fraternité diffuse où chacun a sa place, tout le monde se sent accueilli, on partage des repas, on partage des temps de prière, des temps de formation, sans non plus que tout soit préoccupé, tout géré, où on pense qu'à eux. Mais voilà, on insère le grand âge.
Donc là, vous invitez à avoir un regard, on va dire, complètement différent sur la question de la fin de vie,
et de
l'envisager de manière intergénérationnelle, c'est ça ?
Intergénérationnelle, c'est-à-dire qu'il faut retrouver que la vie, c'est des générations qui se succèdent, mais qui s'enrichissent mutuellement. Et au lieu d'isoler des personnes, oui, derrière ces soins palliatifs, il y a aussi les soins à domicile. Donc il y a quand même un encouragement, mais évidemment, des personnes dépendantes qui sont tout seules à domicile, ça ne va pas. Voilà. Donc c'est l'idée de poser un regard nouveau, hein, sur cette interdépendance positive. Le pape François, vous savez, maintenant il a instauré la Journée mondiale des personnes âgées. Hein, le 31 mai, donc dans son premier message, d'ailleurs aux grands-parents, mais aussi aux personnes âgées, il a défini finalement la mission des personnes âgées, des personnes qui sont finalement en dépendance. Et donc elles ont un rôle utile, voilà, et il y a 3 missions qui sont proposées par le pape à ces personnes-là, et à nous de nous laisser être enrichis par ces missions. Voilà, on pourra en parler si besoin. Voilà.
Anne de la Doucette, votre première réaction à ces deux actualités, ce cinquième plan national sur les soins palliatifs. Alors le rapport, je l'ai retrouvé, c'est un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales qui date de 2018 et qui disait qu'en France, voilà, il y a une mise en œuvre encourageante, mais encore des effets concrets trop modestes. Bref, il y a parfois beaucoup d'effets d'annonce autour des soins palliatifs. Il s'agit maintenant de mettre les moyens.
C'est vrai que pour reconnaître des gens qui travaillent dans des bénévoles, qui travaillent dans les soins palliatifs, c'est vrai qu'il y a de très très belles choses qui se passent et des accompagnements de très grande qualité. Donc des gens qui vont partir et plutôt que de mourir seuls dans les hôpitaux, là il y a un vrai accompagnement, une vraie fraternité qui se met en place et on ne peut que se réjouir de cette volonté du gouvernement d'installer ces soins palliatifs dans toute la France, qu'il y ait un maillage et qu'il y ait un développement aussi. J'ai vu des équipes pluridisciplinaires qui vont chez les gens, qui laissent les gens chez eux, éviter un peu ces EHPAD où on a vu qu'il se passait quand même chose terrible pendant le Covid, où les gens sont morts seuls, quelquefois dans des conditions un peu douteuses, isolés. Voilà. Bon, donc, on ne peut que se réjouir de ce plan qui a l'air complet, parce qu'il y a à la fois l'histoire de maillage, à la fois la formation, et à la fois le lien médecine de ville. Voilà. Ce qui m'inquiète plus, c'est ce projet d'euthanasie qui revient régulièrement. Il ne faudrait pas que ces lieux de soins palliatifs deviennent des lieux d'euthanasie à terme. Vous voyez, on met les gens là et puis ils partent plus vite. C'est toujours l'ambivalence je vais pas faire de politique, mais de ce gouvernement, c'est que d'un côté ça part dans un sens, de l'autre côté ça part dans l'autre sens, et je dis formidable, mais attendons de voir ce qui va se passer. Un, si l'argent va être mis en place, si les stands vont être moins développés, et ça serait formidable. Et il faut dire que ça repose beaucoup sur des bénévoles. Donc la société civile, et c'est la société civile aussi de se mettre en charge et aussi de discerner ce qui est bon. et deux, de voir si l'argent va être développé. Quoi.
Alors moi, j'ai vu à l'intérieur de ça une autre, semble-t-il, actualité qui est la mise en place de la loi dite Claeys-Leonetti, donc qui propose, enfin qui rend possible une sédation en certaines circonstances. Je ne retrouve plus le terme exact.
Il y a un médicament qui voilà, maintenant
est
en ville.
Et ce, selon une décision, on va dire, collégiale. Et là, le ministère de la Santé, justement, à l'occasion de le ministre de la Santé, à l'occasion de la présentation de ce plan, a laissé entendre que justement un médicament qui s'appelle Midazolam pourrait, qui est un puissant sédatif, pourrait demain être prescrit par, on va dire, médecine de ville. Se pose la question de savoir du coup qui va décider de l'administration de ce puissant sédatif. Est-ce que c'est toujours une décision collégiale? Comment ça se passe? On peut aussi se dire que quelque part, ce plan des soins palliatifs, ça peut être la porte ouverte justement à domicile à des formes d'euthanasie divulguées. Tanguy-Marie Pouliquen.
Alors, c'est toujours cette loi, elle croit avoir trouvé l'équilibre entre le refus de l'acharnement thérapeutique et puis l'accompagnement jusqu'au bout des soins et puis le traitement de la douleur. Oui. Évidemment, s'il y a une intention de tuer, c'est de l'euthanasie. S'il y a une sédation profonde...
Profonde et continue, c'est ça
l'expression. Profonde et continue parce qu'il y a une impasse parfaitement sûre, qui est un refus de l'acharnement thérapeutique, on élimine la douleur. La question, ça va être comment ça va être mis en œuvre.
Le curseur.
Quelle va être la rectitude morale des personnes qui vont mettre en œuvre. Et la collégialité permet la protection des personnes. Dans cette loi, ce qui est intéressant d'un
encore point... faut-il que les personnes soient, enfin, qui collégialement prennent la décision, oui, soient aussi formées à des questions éthiques. En l'occurrence,
si le médecin est seul avec le conjoint, c'est pas collégial comme décision.
C'est pas.
Mais quand bien même ils sont plusieurs, encore faut-il qu'ils soient formés. Vous qui êtes professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse, je ne sais pas s'il y a des formations en éthique dans les facs de médecine.
Si, oui, il faut former, mais tout ça, on voit bien que c'est le reflet d'une culture générale, c'est d'un sens de l'homme dans la société, de la dignité de la personne, jusqu'où, en amont, comme en aval. Hein. On a parlé d'un autre sujet précédemment. Est-ce qu'on peut rejoindre positivement, parce qu'il faut quand même sauver le point de vue de l'autre, hein, d'abord, oui. Hein, c'est cette volonté, comme ça a été évoqué, de maillage. Il y a quand même 26 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs.
Oui, donc c'est très bien. Pour
donc c'est quand même beaucoup, hein, 26, un quart des départements français n'en ont pas. Donc l'idée c'est l'accès de tous et pour tous les soins. Donc ça poursuit cette idée qui traverse le gouvernement actuel, hein, d'une posture de défendre l'égalité, une posture un peu égalitariste, que tout le monde puisse avoir des droits identiques. À nouveau, quelle vision de la personne? On ne peut pas avoir l'intention de vouloir mettre fin à la vie de quelqu'un. Voilà. Ça ne peut être que de l'accompagner, parce que cette vie elle-même, je dirais, est finie. Et biologiquement, elle est finie. L'acharnement thérapeutique, c'est aussi un non-sens. Donc on verra, chacun va être envoyé à sa conscience, à la rectitude de sa conscience morale et à sa première... intention, c'est vrai que certains peuvent avoir intérêt à se débarrasser des vieux pour avoir le patrimoine le plus vite.
Anne-Laure Doucette, le mot de la fin.
Oui, le mot de la fin, moi je veux dire que je suis un tout petit peu inquiète par cette société mortifère. C'est-à-dire qu'on se bat, on a arrêté de la société. Ce que je veux dire n'est pas politiquement correct du tout. Hein. On a tout arrêté la société pour le Covid, où il y a eu 100 000 morts, et encore on sait, 110 000 morts, et beaucoup de personnes âgées. Je suis très triste pour eux, mais il y a un moment où la vie s'arrête. Qui étaient finalement des morts naturelles. Mourir de maladie, c'est naturel. Et parallèlement, dans les cliniques, vous aviez aux hôpitaux, vous aviez au premier les urgences Covid, au rez-de-chaussée les autres urgences, qui étaient les avortements. Les avortements par an en France font 200, ça c'est mon côté famille, hein. Il y en a 220 000 par an. Donc en un an, en deux ans, il y a eu 240 000 enfants qui ne sont pas nés, 1 sur 4, hein, faut bien le dire. Et le monde ne s'est pas arrêté. Et aujourd'hui, on va augmenter cette politique mortifère. On empêche en plus, comme pour le Covid, hein, je viens de réfléchir, c'est-à-dire on supprime les délais d'attente, on ne propose pas d'autres solutions, on va très vite.
Délai de réflexion, vous voulez dire. Délai de réflexion. Pour les femmes.
Pour les femmes. On ne propose pas de solution alternative.
Avec cette proposition de loi qui est de porter de 12 à 14 semaines la...
À ce moment-là, on écrase la tête du bébé et on abîme l'utérus de la femme. Et parallèlement, il y a dans le projet, et le président de la République est favorable, de lever la levée de conscience, de lever la clause de conscience
des
médecins gynécologues. C'est-à-dire que on va, avant, ils pouvaient dire je ne veux pas tuer, maintenant on va les obliger à tuer. Imaginez quelqu'un qui a fait 10 ans d'études pour donner la vie à des enfants à qui on lui dit maintenant si tu veux continuer à exercer, on va t'obliger à tuer. Et pour moi, c'est le mal absolu. Hein. Tuer quelqu'un, c'est un péché mortel. La notion de péché n'existe plus dans notre société. Mais on est en train de vivre dans cette atmosphère et on se demande pourquoi c'est si lourd. Et moi, je me demande, c'est parce qu'on n'appelle pas les choses par leur nom.
Voilà. Et ben voilà, c'est dit. En tout cas, on saura comment, ça se passe justement quand on avorte à 14 semaines. Voilà, nous, on avait réussi à faire une émission sur cette antenne. J'ai été étonné qu'on n'ait pas un coup de fil derrière. On avait essayé d'expliquer justement ce qui se passait dans les salles d'orthogénie. Ça fait partie des grands secrets en France. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui au micro de Vivante Église. À la technique, Christophe Aubry. Vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h. Vous la retrouvez en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.